Chapitre 14. James lut jusque tard dans la nuit. Les négligences dans les intrigues et l'écriture continuèrent de s'accumuler. Il perçut cependant, ici et là, des facettes du personnage de Sherlock Holmes qui lui rappelèrent l'homme qu'il avait rencontré 13 jours plus tôt. Et il commença à comprendre, obscurément, ce qui plaisait à certains de ses amis cultivés, tels Edmund Gosse. Le cœur des aventures de Sherlock Holmes, ce n'était pas ses aventures maladroites, qu'il ne trouva jamais particulièrement aventureuses, mais bien plutôt l'amitié entre Holmes et Watson, les petits déjeuners partagés, les jours brumeux qu'ils passaient ensemble devant le feu crépitant, et Madame Hudson qui allait et venait avec ses plateaux de nourriture et des messages en provenance du monde. Holmes et Watson vivaient dans un univers d'albums illustrés pour jeunes garçons. Comme Peter Pan, et malgré les allusions plutôt confuses de Watson à son mariage, aucun d'eux ne grandissait jamais. Dans un aristocrate célibataire, qui, à l'instar de tant d'autres aventures holmésiennes, n'était pas tant un mystère qu'un vulgaire malentendu domestique, un certain Lord Robert Saint-Simon, de noble naissance, se rend au 221B Baker Street pour demander conseil à Holmes. Non content d'égratigner le titre du visiteur en s'écriant « Bonjour Lord Saint-Simon » au lieu de l'appeler comme il se devait Lord Robert ou Lord Robert Saint-Simon, le détective insulte immédiatement son hôte et client. Henry James dut se retenir d'annoter le paragraphe au crayon dans l'exemplaire de Clara. Lord Robert, abandonné juste après le passage devant l'hôtel par une fiancée américaine, dit « Une situation très pénible, comme vous l'imaginez sans peine, Monsieur Holmes. Elle m'a piqué au vif. » Je crois que vous avez déjà eu à vous préoccuper de plusieurs cas délicats de ce genre, monsieur, mais je doute qu'ils aient eu pour cadre la même classe de la société. En effet, en ce moment, je déroge, je descends d'une classe. Plaît-il ? Mon dernier client pour une affaire de ce genre était un roi. Oh, réellement, je l'ignorais. Et quel roi ? Le roi de Scandinavie. Comment ? Il avait perdu sa femme ? Vous comprendrez, répondit Holmes avec suavité, que je suis tenu envers mes autres clients à une discrétion égale à celle que je vous promets pour vous-même. Quelle grandiloquence, songea James. Un gentleman possédant un minimum de discrétion aurait peut-être mentionné des détails similaires relatifs à une autre affaire, mais il n'aurait jamais mentionné le nom d'un autre client, surtout pas s'il s'agissait d'un roi. C'était du snobisme inversé que James avait perçu chez Holmes, ou du moins chez l'homme en bas qui, peut-être, faisait semblant d'être Sherlock Holmes, guidé par la même folie qui l'avait conduit à prétendre être Holmes se faisant passer pour l'explorateur Jan Sigerson. Et cela, ajouté à tant d'autres indices glanés par James dans le recueil et au fil des moments passés avec le détective, l'avait amené à une conclusion. Sherlock Holmes n'était pas un gentleman. C'était seulement une personne douée pour le travestissement qui avait joué pendant des années le rôle du gentleman, affichant la tenue décontractée, l'air las et l'accent distingué de rigueur, mais sans jamais montrer l'âme d'un gentleman. La dernière nouvelle des aventures de Sherlock Holmes, qui lut fenêtre ouverte parce que l'air se réchauffait, et alors que des phalènes se cognaient contre la lampe, eut raison de l'habituel sérieux de Henry James qui dut porter la main à sa bouche pour étouffer un éclat de rire. Il aurait été malvenu que les domestiques des haies, ou l'autre invité en bas, entendent le malade de la goutte rire tout haut après minuit. Cette dernière nouvelle, intitulée « Les êtres rouges », ne déparait pas de l'ensemble, puisqu'on y retrouvait les négligences, incohérences et bourdes holmésiennes qui rendaient les autres récits presque insupportables. L'ensemble révélait l'exécrable paresse d'un auteur sensationnaliste. Tout commence par l'apparition un matin d'une certaine Violette Hunter, jeune femme séduisante quoique trop familière, inconnue de Holmes et de Watson, elle agit comme si elle était déjà une intime, venant demander conseil au grand détective dans une affaire de la plus haute importance. Doit-elle accepter un emploi bien payé de gouvernante auprès du fils d'un monsieur Geoffrey Rucastle? L'entretien qu'elle a eu avec monsieur Rucastle lui a paru très étrange, parce qu'il a déclaré que sa femme et lui étaient des gens maniaques, que son emploi exigerait qu'elle porte une robe particulière et accepte de s'asseoir ici plutôt que là et là plutôt qu'ici. Mademoiselle Hunter se dit ahurie par l'idée de devoir porter certains vêtements, alors que tous les domestiques et nombre de gouvernantes devaient le faire. Quant à Rucastle, l'aurait-il prévenu qu'il lui imposerait de s'asseoir ici plutôt que là s'il avait eu de mauvaises intentions? Ça aurait été idiot. De plus, les maîtres avaient l'habitude de donner des ordres à leur personnel domestique. Puis, Monsieur Rucastle informait Violet Hunter qu'elle devrait couper sa belle et abondante chevelure. Devant cette scandaleuse condition, Mademoiselle Hunter déclinait l'offre d'emploi, mais ne cessait ensuite de penser au coquet salaire et quelques jours plus tard, se trouvait à deux doigts de changer d'avis. C'est alors qu'arriva une lettre de Rucastle dans laquelle il lui proposait de passer ses gages à 30 livres par trimestre, une fortune pour une gouvernante, d'autant que, de l'aveu même de Violet Hunter, elle n'avait qu'une formation et une expérience limitée. Telle est la lettre que j'ai reçue, Monsieur Holmes, et ma résolution a été vite prise. J'accepte. Pourquoi diable faites-vous perdre son temps au détective si vous avez déjà pris votre décision ? Persifla doucement Henry James dans la nuit peuplée de phalènes. Avec l'inéluctabilité d'une intrigue dont les rouages s'étaient mis bruyamment en mouvement, étouffant toute logique et toute réflexion, un télégramme arrivait tard un soir. Veuillez être à l'hôtel Cygne Noir à Winchester demain à midi. Venez. « Je suis à bout. Hunter. » Ce n'était pas un télégramme, c'était une sommation royale. Comme de bien entendu, voici Holmes et Watson qui filent vers Winchester par le train du matin. La partie intéressante de cette séquence, dans ce que William James aurait appelé une perspective psychologique, était le discours plutôt inattendu de Holmes alors qu'il regardait défiler les maisons et fermes dans la paisible campagne. Moi, je les regarde aussi et la seule pensée qui me vient à l'idée, c'est qu'elles sont bien isolées et qu'un crime commis par ici aurait beaucoup de chances de rester impuni. Dieu du ciel, m'exclamai-je, pourquoi associer le crime à ces chères petites demeures? Elles me remplissent toujours d'une certaine horreur. Mon sentiment, Watson, basé sur l'expérience, est que les ruelles les plus sordides de Londres enrichissent beaucoup moins les annales du crime que cette campagne souriante et verdoyante. Vous m'épouvantez. La raison en est évidente. La pression de l'opinion publique peut accomplir en ville ce à quoi la loi échouerait. Il n'y a pas à Londres de quartier misérable où la plainte d'un enfant torturé, le bruit mat des coups que distribue un ivrogne, ne soulève l'indignation des voisins. Et tout l'appareil de la justice est si proche que la moindre dénonciation peut le mettre en marche. Il n'y a qu'un tout petit pas à franchir entre le crime et le banc des accusés, et cela se sait. Mais considérez ces maisons isolées, encloses chacune dans ses propres terres, habitées pour la plupart par de pauvres gens qui ignorent quasiment tout de la loi. Songez à ces manifestations d'infernale cruauté, de méchanceté rusée qui peuvent se donner libre cours, tantôt ici, tantôt là, à l'insu du monde entier. Henry James avait vécu suffisamment longtemps en Europe pour savoir qu'il s'agissait là de pures âneries. Les villages et cottages pittoresques connaissaient sûrement leur lot de délits et de violences domestiques, mais pas ces crimes gratuits nés de la misère et qui, d'après les déclarations absurdes de Holmes, étaient vite dénoncés et systématiquement punis dans les bas quartiers et les taudis de Londres. Au contraire, la cruauté de la ville préférée de Henry James était connue de tous ses habitants. Deux choses frappaient Henry James dans cet éclat idiot du Sherlock Holmes de fiction. D'abord, cette défense de la ville, par opposition à la campagne, était très peu conforme à l'esprit anglais. Une opinion française, peut-être, ou russe, mais résolument pas anglaise. Ensuite, James entendait presque la voix forte de son frère William disant « C'est un aveu concernant les origines du bonhomme, Henry. Un appel à l'aide et à la compréhension. Il a autrefois vécu un épisode très sombre et douloureux à la campagne, une campagne à laquelle il n'était pas accoutumé, parce qu'il venait peut-être des quartiers pauvres d'une ville. Son subconscient déteste et craint désormais l'idée même de la tranquillité bucolique et ces intervalles d'obscurité silencieuse entre les maisons et les fermes. Il serait très intéressant d'explorer l'origine des peurs profondes de cet homme. » Il arrivait à Henry James de donner des conférences sur les grands écrivains, mais si un jour il devait faire un exposé sur les écrits ridicules, il prendrait comme corpus le reste des êtres rouges. Mademoiselle Hunter, ayant adopté une coupe de cheveux courte qui n'était pas sans rappeler douloureusement à James sa cousine Minnie Temple, lorsqu'à l'adolescence, elle avait dû sacrifier sa chevelure à la suite d'une maladie grave, retrouve Holmes et Watson à l'hôtel Black Swan. Apparemment, c'est le genre de gouvernante qui ne voit aucun inconvénient à laisser l'enfant dont elle a la charge à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Du jeune Edward Rucastle, on sait seulement qu'il a une tête beaucoup trop grosse pour sa taille et un caractère vicieux. Mis à part ses réflexions, il n'est jamais fait mention des tâches de la gouvernante ni de sa relation avec le garçon. Les Rucastle ont appris à Violet Hunter que leur fille, qui ressemblait beaucoup à la gouvernante, était morte de congestion cérébrale, raison pour laquelle elle avait les cheveux courts, et Hunter de raconter à Holmes et Watson qu'on lui a demandé de s'asseoir devant un bow window, dos à la fenêtre bien sûr, revêtu de la robe de la jeune défunte et que M. Rucastle l'a fait rire tout haut en lui racontant une série interminable d'histoires fort comiques. Quand Violette a dissimulé un petit miroir dans son mouchoir pour regarder par la fenêtre derrière elle, elle a vu un jeune homme adossé à la barrière du champ en train de fixer intensément son dos. Mais la sinistre Madame Rucastle a remarqué le miroir, s'est exclamée qu'il y avait un intrus dans la propriété et a ordonné à Violette de lui faire signe de s'en aller avant de baisser le store. Ensuite, Mademoiselle Hunter ouvre facilement un tiroir fermé à clé de la commode de sa chambre et y trouve une mèche de cheveux de la même couleur et de la même texture que les siens. Comme il est d'usage dans les romans gothiques tels que Jane Eyre, il y a l'inévitable pièce fermée à clé. Ici, une aile entière de la maison que Mademoiselle Hunter a ordre d'éviter. Évidemment, elle ne tarde pas à trouver une clé, commodément, laissée dans la serrure et explore l'aile poussiéreuse et vide, vide à l'exception d'une pièce aussi fermée à clé et barrée par un montant de lit en fer. Monsieur Rucastle a aussitôt vent de sa transgression et menace de donner la gouvernante en pâture au dog nommé Carlo, que Toller, l'unique domestique, a charge de sortir de son chenil la nuit. Cet après-midi-là, Toller s'est, semble-t-il, saoulé au point de perdre connaissance. Holmes annonce alors immédiatement à Violet Hunter qu'elle doit enfermer Toller dans la cave ce soir-là et que le docteur Watson, muni de son fidèle revolver de service, et lui, seraient au Hêtre Rouge à 19h. Holmes s'est dit persuadé qu'Alice, la fille de M. Rucastle, était vivante et retenue prisonnière dans la pièce barricadée, pour quelque raison infâme, probablement en lien avec un héritage que son père voudrait s'approprier. Et nos trois aventuriers ont au fait d'écarter la barre en fer et de défoncer la porte pour trouver la pièce vide. Il n'y avait aucun ameublement sauf une petite paillasse, une tablette, un sac de toile. Le châssis vitré du dessus était ouvert et la prisonnière était partie. « Il s'est produit quelque chose de fâcheux, dit Holmes. Ce joli cœur a deviné les intentions de Mademoiselle Hunter et il a transporté sa victime ailleurs. » « Mais comment ?»« Par le vasistas. » Nous allons voir tout de suite comment il s'y est pris. Il se hissa sur le toit comme un écureuil. « Ah, bon !» cria-t-il. « Voici le bout d'une longue échelle légère contre l'avant-toit. Je comprends tout. »« Impossible, » dit Mademoiselle Hunter, « l'échelle n'était pas là quand les Rucastle sont partis. » Alors, il est revenu et il l'a fait. Je vous dis que c'est un homme intelligent et dangereux. À cet endroit, Henry James ne put plus retenir un petit rire. Un homme intelligent et dangereux qui juge nécessaire d'utiliser une grande échelle pour monter sur le toit de sa propre maison et de se laisser tomber par un vasistas pour enlever une jeune femme dans une pièce dont il détient la clé, alors qu'il aurait pu déverrouiller la porte et faire sortir sa fille tout à fait normalement à n'importe quel moment. C'était typiquement des déductions de Holmes et, songea James, typiquement stupides. La fin de l'histoire était tellement caricaturale que c'en était désolant. « Bandit !» s'écrie Holmes. « Où est votre fille ?» Rucastle se précipite pour aller lâcher Carlo, l'énorme dog, dont on sait qu'il n'a pas mangé depuis deux jours, du fait de l'ivrognerie de Monsieur Toller. Le chien attaque Monsieur Rucastle à la gorge, le docteur Watson fait sauter la cervelle de l'animal avec son fidèle revolver de service, mais trop tard, hélas. Dégrisé, Toller va chercher sa femme qui explique toute l'intrigue. Le besoin qu'avait Rucastle de faire croire à la mort de sa fille, pour des questions d'héritage, et de la cacher dans l'aile fermée, toute cette pantomime visant à faire passer Violet Hunter pour Alice afin que le fiancé très persévérant de cette dernière, le monsieur Fowler que Violet Hunter avait aperçu dans son miroir, renonce et finisse par s'en aller. Dans un dernier paragraphe, toutes les questions en suspens sont résolues. Nous ne rencontrerons jamais Alice ou monsieur Fowler, mais apprenons par le narrateur qu'ils se sont mariés et que l'heureux époux est maintenant fonctionnaire du gouvernement à l'île Maurice. Mademoiselle Violet Hunter dirige une école privée à Walsall, une très belle position pour cette femme sans réelle référence, qui a admis au cours de l'histoire ne posséder pour toute compétence qu'un peu de français, un peu d'allemand, de musique et de dessin. Reposant le livre terminé sur sa table de chevet, Henry James dut de nouveau presser ses jointures sur ses lèvres pour réprimer un rire. L'auteur, le docteur John H. Watson, Arthur Conan Doyle, un étrange mélange des deux écrivaillons, avait complètement oublié le fils, Édouard, le jeune garçon à la tête beaucoup trop grosse et au caractère vicieux. Tous les autres personnages, dont son ancienne gouvernante, Mademoiselle Hunter, avaient eux aussi manifestement oublié qu'Édouard était censé exister. Avec la fin heureuse qui voyait Monsieur Rucka seul, la gorge lacérée par un dogue affamé, Édouard semblait avoir tout simplement disparu. Pouf ! Couché dans l'obscurité, James repense à une nouvelle mettant en scène une gouvernante qu'il a parfois envisagé d'écrire. La nouvelle, s'il la rédigeait un jour, serait racontée du point de vue de la gouvernante à l'esprit embrumé et parlerait d'un mal palpable, quoique imaginaire, paraissant menacer l'enfant ou les enfants dans une maison de campagne isolée. Ce serait comme une histoire de fantôme, mais sans fantôme, et James sait qu'il devra procéder par petites touches légères et subtiles, afin que le lecteur, de plus en plus inquiet, commence à se demander si la gouvernante n'est pas folle, ou malfaisante, ou si ce sont les enfants qui sont malfaisants. À moins qu'il n'y ait un fantôme, ou plusieurs, James n'a pas encore décidé, malgré toutes les suggestions mentales indiquant le contraire. Son frère William aimerait sûrement une telle nouvelle psychologique. Tout ce que sait James avec certitude, c'est qu'il aura besoin de tout son savoir-faire littéraire et de sa plume la plus délicate pour faire lentement prendre conscience au lecteur les multiples niveaux d'honnêteté, de mensonge, de culpabilité et d'innocence, tout en s'assurant que l'intrigue demeure assez explicite pour donner la chair de poule. Il devra en permanence entretenir le doute du lecteur quant à ce qui se sera réellement passé et aux événements qui n'auront eu lieu que dans l'esprit de plus en plus dérangé de la gouvernante. Souriant vaguement au souvenir des absurdités pathétiques des êtres rouges, songeant aux fantômes et aux troubles de l'esprit humain en conflit avec lui-même, Henry James s'endormit dans la chaleur de la nuit washingtonienne.